Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, nous parlons de l'offensive du maréchal Haftar en Libye. Depuis le 4 avril dernier, les troupes du maréchal Haftar ont lancé une offensive sur Tripoli dans le but de prendre la capitale. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, dénonce le manque de solidarité des partenaires, dont la France. Alors que pensez-vous de cette offensive ? Cette offensive peut-elle permettre de trouver une issue à l'instabilité qui caractérise le pays ? Depuis 2011, nous en parlerons dans quelques instants avec Michel Scarbonchi, ancien député européen, consultant international. Je vous donne le WhatsApp d'Africa Radio pour nous envoyer des messages et demander à être rappelé si vous voulez participer au direct. Le numéro WhatsApp, c'est 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Avant cela, voici la séquence incontournable du journal des auditeurs. Le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour madame Stéphanie Hartmann. Bonjour à monsieur de Gilbert. Je voulais participer par rapport à la suspension de premier ministre au Sénégal. Pour moi, je ne vois pas, il n'y a pas de trace de ce qu'ils ont fait de supprimer un poste de premier ministre, parce que ça ne change pas grand chose, ça ne change rien. De toute façon, le gouvernement, il ne va pas s'améliorer. C'est juste ça. Mais bon, ils le suppriment, je ne sais pas pourquoi. Mais des choses à voir. Bon, merci, bonne journée. Au revoir.
Bonjour amis JDA, bonjour peuple africain, bonjour Stéphanie, Madame Stéphanie. Je vais parler aujourd'hui de la Centrafrique. Le gouvernement doit laisser la liberté de manifester, la liberté de manifester, que le peuple puisse s'exprimer. Il ne faut pas que le gouvernement interdit le peuple à s'exprimer de que le gouvernement puisse annuler le décret de la nomination de ce chef groupe armé Ali Ndarassa. C'est tout ce que le peuple veut, tout simplement ça. Que un chef groupe armé qui a tué, qui a massacré, ne peut pas être à une autorité, une haute autorité à la tête de notre armée nationale. C'est impossible, c'est impossible. Donc le gouvernement laisse le peuple centrafricain parler et qu'il annule ce décret. C'est lui qui a signé, il peut l'annuler. Je vous remercie.
Oui, bonjour. Alors, je prends part à la campagne de propagande sur les soins prodigués en ce qui concerne le paludisme. Je voudrais simplement dire qu'il y a depuis très longtemps une plante qui a été découverte qui s'appelle l'Artemisia annua. L'Artemisia annua, elle est cultivée en Madagascar, cultivée au Sénégal et également, je pense, au Bénin et peut-être au Togo. Et c'est une plante qui est très efficace contre le paludisme, qui ne soigne pas le paludisme, mais qui guérit le paludisme. Et donc, depuis très longtemps, les grands groupes pharmaceutiques sont montés en ligne contre ce médicament qui est moins cher, puisqu'il s'agit simplement de prendre des tisanes. Donc, c'est une plante dont on peut commander les graines et qu'on peut faire pousser soi-même, et on n'a pas besoin d'autre chose. Et on ne comprend pas pourquoi les grands groupes pharmaceutiques refusent justement des recherches vers cette plante-là. Voilà.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et toute Africa Radio. Moi, je reviens sur Patrice Talon, en fait. Le scénario qui va se jouer finalement dimanche 28 au Bénin, là où on va voir désormais un parlement béninois sans aucune formation politique de l'opposition. Ça, franchement, ça me dépasse parce que quand on voit le Bénin qui a toujours été un modèle de démocratie, 30 ans de cela, le Bénin a toujours été un modèle. Et aujourd'hui, Patrick Talon poursuit ses fins politiques, sa soif du pouvoir. Et voilà, il ramène ce pays-là 30 ans encore en arrière. Parce que dès dimanche 28, le Bénin, je repars dans un système de parti unique. Ça, c'est clair. Parce que comment on va expliquer ça si ce n'est pas, c'est pas le plan qu'il a déjà mis dans sa tête. Donc, qu'il règne, en fait, hein, qu'il soit le patron de tout. Et après, c'est semer la terreur pour tuer les Béninois qui vont manifester contre sa politique. Et tout ça, c'est pour ternir carrément l'image de la démocratie béninoise. Alors, on met ça de ce matin. Je suis tellement dépassé. Voilà, William.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. La situation en Libye, vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Et pour en parler, nous recevons en studio Michel Scarbonchi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes ancien député européen, consultant international. Alors, première question, Michel Scarbonchi. L'armée nationale arabe libyenne, c'est ainsi qu'on appelle les troupes du maréchal Haftar, a annoncé l'arrivée imminente de troupes venues de leur base à l'est du pays pour accélérer la prise de Tripoli. Depuis le 4 avril, le maréchal et ses troupes ont lancé l'offensive sur la capitale libyenne. Est-ce que cette offensive, Michel Scarbonchi, signifie l'échec des négociations et l'impossibilité finalement d'une solution politique en Libye ?
Écoutez, cela fait 5 ans maintenant, depuis 2014, que le maréchal Haftar négocie avec M. Sarraj un accord politique sous l'égide de l'ONU. À chaque fois qu'il y a eu signature, rappelez-vous, la selle Saint-Cloud à Paris, à Dubaï, à Brazzaville, etc., à chaque fois, les termes de l'accord n'ont pas été respectés par M. Sarraj, pour une raison simple. M. Sarraj, à chaque fois qu'il rentre à Tripoli pour faire entériner l'accord signé avec le maréchal Haftar, prend de plein fouet la pression des milices islamistes et est obligé de ne pas signer l'accord. Parce qu'il est l'otage de ces milices islamistes, puisque c'est elles qui lui ont permis d'arriver à Tripoli et de s'installer à Tripoli. Il est quand même paradoxal de constater aujourd'hui qu'il y a un homme d'un côté, le maréchal Haftar, qui contrôle 80% du pays, qu'il a pacifié et sécurisé, et les 30% c'est la Tripolitaine. C'est-à-dire là où il y a le premier ministre de l'ONU, l'homme mis en place par une institution internationale mondiale. Il y a un paradoxe, une absurdité quelque part. Comment se fait-il que cette zone soit devenue un empire mafieux où vous avez 500 à 600 000 migrants en attente de traverser la Méditerranée, où vous avez des trafics de toutes sortes, prostitution, armes, essence, drogue, et où vous avez surtout un hub terroriste ainsi qu'un hub migrant. C'est quand même incroyable que cela se soit fait sous l'égide de l'ONU, en tout cas du représentant désigné de l'ONU, M. Sarraj, qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucune assise. Il n'appartient pas à une grande tribu. Il a été incapable de s'imposer politiquement. Donc le maréchal, excédé, fatigué de voir que le pays se délite et que on arrive à rien, a décidé de choisir la solution militaire plutôt que la solution et des élections.
Alors justement, il y a eu un sommet extraordinaire hier au Caire, sous l'égide d'Abdel Fattah al-Sissi, et les présidents sud-africains, rwandais et congolais, notamment Denis Sassou Nguesso, qui est très impliqué dans la crise libyenne, étaient réunis justement pour ce sommet. Ils ont appelé un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que la reprise du dialogue peut-elle être envisagée à l'heure actuelle ?
Je ne crois pas. Le maréchal est au port de Tripoli. Il se bat dans les faubourgs de Tripoli. Enfin, son armée se bat dans les faubourgs de Tripoli. Pourquoi Tripoli n'est pas encore tombé ? Parce que le maréchal veut éviter les destructions au cœur de Tripoli, de bâtiments. Il veut éviter les pertes de populations civiles. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bat dans les faubourgs de Tripoli de façon à faire sortir les milices et à les combattre en dehors de Tripoli. C'est ce qui se passe en ce moment.
Quand vous parlez de milices islamistes, c'est ce qu'on appelait les milices de Misrata, par exemple, c'est ça, non ?
Non, pas seulement. Non, pas seulement. Pour l'instant, Misrata est bien tranquille et bien calme. Mm-hmm. Et regarde.
D'accord.
Et regarde, parce que si Tripoli tombe, que va faire Misrata ? Ils sont acculés à la mer, ils sont coincés, ils n'auront qu'une chose à faire, c'est négocier une reddition ou un accord politique avec le maréchal. Le maréchal veut prendre Tripoli pour réunifier la Libye et pour que le pays retrouve ce qu'il aurait dû avoir depuis la fin de la guerre de 2011. N'oublions pas que ça fait 8 ans que ce pays est en guerre. 8 ans.
Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Dans quelques instants, on écoutera Marcus. Mais je vous lis d'abord ce message que Christophe nous envoie depuis les États-Unis. Il parle d'Abdelkarim Ouzdi, ministre tunisien de la Défense, qui a déclaré que des Européens, dont des Français, ont été interceptés entre la Libye et la Tunisie. Christophe pose cette question. Hein, pendant que le président Donald Trump supporte ouvertement le maréchal Haftar, il a fait une déclaration il y a quelques jours.
Oui.
Est-ce que le président Macron joue un double jeu, s'interroge Christophe. Hein, c'est vrai que justement le premier ministre Fayyad al-Sarraj a dénoncé un peu de soutien de la France. Les États-Unis ont, eux, affiché clairement leur soutien pour le maréchal Haftar. Pourquoi la France n'annonce pas clairement son soutien au maréchal ?
La France a toujours souhaité une solution négociée. C'est elle qui a déjà empêché, c'est M. Le Drian et le président Macron qui ont empêché le maréchal Haftar, dès 2017, de marcher sur Tripoli. Vous savez, quand il y a eu la fin des accords de Skhirat, hein, puisqu'ils considéraient que c'était caduque et que donc il était libre de faire ce qu'il voulait. C'est eux qui l'ont empêché, en lui faisant croire avec M. Salamé qu'on allait arriver à une solution politique. Hein, et bon, la France a toujours joué le jeu de la solution diplomatique. Elle ne peut pas empêcher le maréchal, qui est libre de son action, avec son armée, de choisir une solution militaire. N'oublions pas que le maréchal est l'allié de la France dans la lutte contre le terrorisme. N'oublions pas que, avec le maréchal, nous avons sécurisé la frontière sud de la Libye, qui permet de stabiliser le Sahel et qui évite ce qui se passe au Niger, au Mali. Et malgré cela, vous avez vu les massacres qu'il y a, les combats qu'il y a,
le
etc.
Le Sahel n'est pas si stable, en effet. Oui.
Voilà. Parce que la stabilité de la Libye, c'est la condition pour limiter le terrorisme et pour stabiliser le Sahel. C'est la condition.
On va revenir dans quelques instants aussi le profil du maréchal Haftar. Hein. Revenons sur l'échec des négociations et de la solution politique. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez accusé Fayyad al-Sarraj finalement de ne jamais respecter les accords qui ont été signés. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de point qui n'a pas été respecté par l'accord et qu'est-ce qui, à chaque fois, échoppe dans les négociations politiques ?
Une chose simple, vous ne pouvez pas demander à des milices qui vivent de tous les trafics, qui gagnent des millions de dollars avec les trafics. Vous ne pouvez pas leur demander du jour au lendemain de s'intégrer à la fonction publique libyenne ou à l'armée libyenne et des gens qui gagnent des milliers de dollars avec leur trafic de gagner 200-300 euros par mois. Mmh. C'est impossible, c'est une absurdité, il n'y a que l'ONU pour imaginer ça. Comment peut-on penser que ces milices vont accepter d'être désarmées et de rentrer tranquillement dans... Voilà. Donc, il est évident qu'on achoppe sur ce point-là, essentiel, et que M. Sarraj n'a jamais pu le faire accepter, ça va de soi, par les milices.
Mmh. Hein, on va écouter Christian qui nous écoute du côté du Tchad. Christian, bonjour. Vous êtes voisin de la Libye. Ah, non ? Ah, vous voyez, ça sonne. Je vais peut-être pas, on va laisser sonner Christian, on va vérifier au standard s'il est sur le numéro. Bon, on va écouter Marcus. Marcus, bonjour.
Allô, bonjour Madame Hartmann, bonjour l'invité, bonjour les auditeurs.
Bonjour Marcus.
Oui, j'interviens, mais c'est vrai, dans ce combat qu'il y a, cette guerre, cette nouvelle guerre qui se dessine encore en Libye, il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire, j'ai bien posé la question au standard, c'était pour savoir d'où venaient les armes du général Haftar. D'où venaient les armes que possédait Tripoli. Donc, comment est-ce possible qu'une minorité puisse être reconnue au niveau international et qu'on n'arrive pas à rétablir l'autre, si on peut dire, républicain? Comment se fait-il que des gens qui en profitent de cette situation, après qu'on a créé un chaos sur le continent, un chaos dans un pays qui était prospère, qui était libre, et que là où des crimes qu'on peut dénoncer comme crimes contre l'humanité, que la société des nations n'arrive pas à faire de façon à rétablir une fois l'ordre pour stabiliser un pays.
Mais bon, on a bien compris, Marcus. Allez-y pour conclure, s'il vous plaît.
Oui, donc c'était la question. Et quel jugement aura les gens qui ont mis à place ce pays? Je pense que tous ceux qui ont comploté pour pouvoir établir une guerre sur cette partie de terre où le pays est...
Je ne suis pas sûr que ce soit un complot, d'ailleurs. Mais merci, Marcus. Allez-y. Oui, bah alors justement, merci. Michel Carmonchi, je vais vous demander une réaction. Marcus, hein, qui a du mal à comprendre comment la Libye est en arrivée là. C'est marrant, il parlait de la Société des Nations, hein, qui est un concept voilà, très, qui était au début du XXe siècle. Alors la première question de Marcus, il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'intervention de Marcus, c'est d'où viennent les armes que chacun dispose. Parce qu'effectivement, hein, la Libye, on voit, hein, on a l'impression que c'est une espèce de d'armurerie à ciel ouvert. Et d'ailleurs, hein, dans le communiqué de l'Union africaine, les chefs d'État ont appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour empêcher l'envoi d'armes de combattants, de terroristes en Libye et stopper toute forme d'ingérence étrangère. Qui est ciblé par ce communiqué de l'UA?
Oh, je pense peut-être la Turquie, certaines milices qui combattent encore en Syrie, peut-être le Qatar. Mais je voudrais
Est-ce
revenir.
Que la France livre des armes au maréchal Haftar?
Non, je crois pas, non. Non, la France n'a pas besoin de livrer des armes au maréchal Haftar. Tout le monde oublie qu'à la fin de la guerre de 2011, cette bêtise française, cette guerre de M. Sarkozy, qui a provoqué le chaos en Libye et dans toute la région, à la fin de cette guerre, la Libye est le plus grand centre de dépôt de munitions et d'armes de la planète, un des plus importants, probablement avec l'Ukraine à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les différentes milices et différents groupes ont mis ont vandalisé tous les dépôts. Certains avaient été répertoriés et protégés, d'autres pas. Et donc, voilà les armes d'où elles viennent. Ce sont des armes qui appartenaient à la Libye et qui étaient des armes libyennes à l'époque de Kadhafi. Et à cela, après, s'est ajouté le fait d'un certain nombre de trafics qui ont eu lieu pour nourrir. N'oublions pas qu'à la fin de 2011, vous avez après la guerre de 2014, une première guerre civile, où les islamistes prennent le contrôle de Tripoli, ils prennent le contrôle de Benghazi, le contrôle de Derna, de Sirte. Toutes les grandes villes libyennes étaient aux mains des islamistes en 2014. Tout le monde oublie cela. Et c'est le maréchal qui, n'acceptant pas cette situation, est parti avec 274 hommes conquérir Benghazi. Bon, il lui a fallu 2 ans pour prendre le contrôle de Benghazi, créer une véritable armée nationale libyenne, l'encadrer, la former avec l'académie militaire de Benghazi. Bon, il faut avoir vu tout cela, avoir connu tout cela pour comprendre ce qui se passe. Vous n'avez pas des milices contre des milices actuellement. C'est pas les milices de Sarraj contre les milices de Haftar. C'est les milices qui ont pris en otage Sarraj qui combattent l'armée nationale libyenne. Une véritable armée formée, encadrée, etc. Alors, c'est vrai qu'elle est équipée aussi, probablement un peu par la Russie, beaucoup par les Émirats arabes unis, beaucoup par l'Égypte. Bon, voilà, ça oui, ça c'est avéré.
Est-ce qu'il faut voir, du coup, alors puisque vous parlez de l'Égypte, est-ce qu'il faut voir aussi le communiqué de l'Union africaine hier, hein, je rappelle que c'est l'Égypte qui préside actuellement l'UA, oui. Abdel Fattah al-Sissi, oui. Comme un demi-soutien?
Bon, en tout cas, pas une condamnation.
D'accord.
Et vous savez, les chefs d'État africains sont tous conscients. Hein, le maréchal Sissi a fait une tournée là récemment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Guinée, où il a rencontré donc les hommes qui comptent actuellement, c'est-à-dire Ouattara, Macky Sall et Alpha Condé, pour les convaincre qu'il fallait soutenir le maréchal Haftar. Tout le monde a intérêt à ce que la Libye soit stabilisée. Tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État souverain, un État démocratique, le plus vite possible. Et seul, ça veut dire qu'il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur dans cette guerre. Il faut un vainqueur, il faut arrêter.
Donc finalement, pas de solution politique, mais une solution militaire. C'est celui qui gagne qui prend le pouvoir. Vous avez parlé à l'instant hein, de Libye démocratique. Hein. Il faut savoir que le Premier ministre Fayez al-Sarraj hein, accuse la France de soutenir, quant à lui, un dictateur. On va écouter justement Sidi, hein, qui n'est pas très d'accord, je pense. Sidi, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie Atman.
Bonjour Monsieur Sidi. Vous vouliez rappeler que le maréchal n'était pas reconnu par la communauté internationale, c'est ça?
Oui, effectivement, j'ai entendu l'intervention de votre invité, qui est député européen, je crois.
Ancien député européen.
Voilà. Mais franchement, je ne sais pas, il faudrait que il nous respecte un peu avec toute cette histoire d'Internet, on a tout ce qu'il faut. La semaine passée, je crois bien que la France a été sanctionnée par l'ONU. Et la France, qui est le pays des droits de l'homme...
Et sanctionné par l'ONU, pourquoi, Sidi? Je crois pas. Dites-moi. Sur quoi, la France?
Ils ont été sanctionnés par l'ONU parce qu'ils soutiennent le maréchal Haftar. Et le maréchal Haftar n'a pas été reconnu par l'ONU.
Vous savez, l'ONU doit... À mon avis, ça m'étonnerait que l'ONU arrive à sanctionner la France, étant donné qu'elle a un droit de veto.
Si.
Oui, il y a peut-être une condamnation formelle. D'accord, allez-y.
C'est la France et l'Égypte qui soutient le maréchal Haftar. C'est la France et l'Égypte qui soutiennent le maréchal Haftar. Donc aujourd'hui, pour ce qui s'est passé en Libye, pour que toutes les bêtises qui est faites et ce qui est passé, pour reconstruire un pays, il faudrait que déjà il y ait un gouvernement et après ils vont aller aux élections.
Oui.
Si le maréchal il a confiance à ses forces, il faudrait qu'il reste une chose. Il faudrait qu'il y ait la paix déjà avec la sécurité. On sait qu'il est beaucoup armé, il est armé par des pays qui sont très forts. Et moi, le député européen, franchement, je suis choqué par ses interventions.
On va le dire, Michel Sabonchi, on va le dire clairement, vous êtes un soutien du maréchal Haftar. On est d'accord avec ça. Hein. Non, je parle pas de vous, Sidi. Je demande à Monsieur Sabonchi de.
Oui, tout à fait.
Pour apaiser la conscience de Sidi. Voilà. Non, on s'en est pas caché. J'aurais dû le dire dès le début. Sidi, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites finalement, il faut respecter le droit international et la légitimité de l'ONU. C'est ce que vous dites. Hein.
C'est tout. C'est clair.
Oui.
Allez-y.
Je vais répondre à votre interlocuteur.
Merci Sidi, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il a fini. Sidi n'a pas tort d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr, mais attendez. Pour organiser des élections, qu'elles soient législatives, présidentielles ou municipales, encore faut-il sécuriser le pays. Comment voulez-vous organiser des élections dans un pays où vous avez des milices qui contrôlent des endroits de non-droit? C'est impossible. Et surtout la Tripolitaine, où la majeure partie de la population libyenne vit. Donc c'est une absurdité, ça aussi, de vouloir organiser des élections dans un pays non sécurisé, dans un pays en proie à la guerre. Donc d'abord, il faut régler le problème militaire. Quand on a réglé le problème militaire, on met en place un gouvernement national qui réunisse toutes les parties, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et des élections.
Oui, attendez, après les élections. Et après, on fait des élections, bien sûr. Mais le maréchal, moi j'ai eu le privilège de parler, de rencontrer trois fois le maréchal et de parler très longuement avec lui, plusieurs heures. Quand vous discutez avec un homme comme ça, vous voyez très bien s'il a envie d'instaurer une démocratie ou pas, s'il a envie d'instaurer une dictature ou pas. Il a 75 ans. Comme il le dit lui-même en riant, on ne devient pas dictateur à 75 ans. C'est
alors,
un peu tard.
Je peux rappeler un peu d'où vient le maréchal Haftar. On en parle beaucoup. Quel est son parcours? Il était membre de l'armée sous Muammar Kadhafi, c'est bien ça?
Il a fait partie des officiers, ils n'étaient pas nombreux, une dizaine, qui ont pris le pouvoir pour renverser le roi Idriss. Et avec Kadhafi. Donc il était très proche de Kadhafi.
75.
Voilà, et Kadhafi, donc, qui avait très confiance en lui, l'envoie à la conquête du Tchad dans les années 80, avec 2000 hommes. Il arrive pratiquement il gagne plusieurs batailles, et ensuite la France rentre dans le jeu. La France rentre dans le jeu pour souvenir les autorités tchadiennes de l'époque. Et donc le maréchal Haftar est capturé avec ses hommes. Les dirigeants tchadiens lui proposent de rentrer à Tripoli. Il refuse en disant qu'il rentre avec ses hommes, mais il ne rentrera pas seul. Et à ce moment-là, donc, il reste prisonnier au Tchad. Il reste prisonnier pendant 1 an, 2 ans. Et ensuite, les Américains le récupèrent aux États-Unis avec une partie de ses hommes, où il passe un certain nombre d'années et où il est un peu instrumentalisé par les Américains pour essayer de renverser Kadhafi. Kadhafi qu'il avait abandonné d'ailleurs, hein. Kadhafi qui n'avait rien fait pour le récupérer, etc., lui et ses hommes, alors que c'était quand même l'armée nationale libyenne à l'époque. Et donc il lui en voulait, et à juste titre. Donc après, quand il y a la guerre de 2011, il rentre à Benghazi parce que sa tribu, une des tribus les plus importantes de Libye, est à Benghazi. Il rentre à Benghazi et il mène les combats contre Kadhafi.
Aux côtés des révolutionnaires.
Et complètement, oui, tout à fait.
Donc c'est pour répondre peut-être à l'auditeur qui parlait de complot tout à l'heure.
Oui.
Il y a eu un soulèvement populaire dans l'est de la Libye en 2011.
Tout à fait. Et donc il participe. Et après, quand il vient à Tripoli et qu'il voit ce qui se passe avec la prise de pouvoir, n'oubliez pas qu'à Tripoli en 2014, qu'est-ce qui se passe? Il y a des élections. Les islamistes sont battus aux élections. Il y a l'Assemblée nationale de Tobrouk qui est élue, qui est toujours la seule assemblée élue de la Libye et qui siège actuellement à Tobrouk puisqu'elle avait fui Tripoli et les islamistes. Cette assemblée, quand les islamistes voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent les armes et ils prennent le contrôle de Tripoli et de la plupart des grandes villes libyennes. Et c'est là où le maréchal comprend que son pays va tomber sous la coupe des islamistes et va devenir un hub terroriste. Et c'est pour ça qu'il s'engage. Il faut lui reconnaître ce mérite. Cet homme dont la tête est mise à prix par les islamistes depuis 4 ans. Cet homme qui a subi des attentats, qui s'est battu tout seul avec pas grand chose et qui a réussi à combattre les islamistes et a libéré la plupart des villes, en tout cas de l'Est libyen, qui a libéré le Sud le faisant, qui a réussi à faire l'union des tribus libyennes. Hein, il fait ce que Kadhafi a fait d'ailleurs.
Hein, alors c'est la question que j'allais poser. Est-ce que finalement on n'est pas en train de soutenir un nouvel homme fort en Libye? Et est-ce que finalement, en soutenant le maréchal Haftar, est-ce qu'on ne risque pas, si Haftar prend le pouvoir, les Libyens auront-ils fait la révolution pour rien?
Non, je ne crois pas. Pour avoir longuement parlé avec lui, j'ai senti que cet homme est obsédé par la reconstruction de l'État, d'un État libyen, qui n'a jamais existé d'ailleurs, hein, rappelons-nous. Hein, même à l'époque de Kadhafi, c'était pas un État, c'était la fédération des tribus qui faisait l'État libyen. Hein, et Kadhafi en était le point central. Donc cet homme veut reconstruire son pays. Cet homme est fatigué de voir cette guerre qui dure, et donc il faut lui reconnaître ce mérite. Et quand vous discutez avec lui, vous voyez qu'il est obsédé. Moi, je l'appelais le De Gaulle libyen, parce qu'il est obsédé par ça, l'intérêt général, l'intérêt public. Je suis même pas sûr qu'il se présentera s'il y a une élection présidentielle, J'en suis même pas sûr. Parce qu'il préférera garder le contrôle de l'armée nationale libyenne, parce que pour lui, c'est la condition pour sécuriser le pays. Mais M. Haftar n'est pas un deuxième Sisi. M. Haftar, c'est Haftar. Et il faut lire son parcours pour comprendre ce que cet homme est capable de faire. Voilà.
Merci. On va retourner au standard, donner la parole aux auditeurs. On va écouter Diomo de Beng et Olivier. Et Ibrahim, qui patiente depuis un bout de temps. Diomo de Beng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, et bonjour à Caradio et bonjour à votre auditeur.
Alors, monsieur Diomo de Beng, je suis désolé, mais attention, le réseau n'est pas très bon. On va essayer de vous entendre, mais...
Oui, ça va, c'est bon ?
Ça va beaucoup mieux, allez-y.
Voilà, je disais que je suis vraiment stupéfait par les propos de l'ancien eurodéputé, parce que moi, en entendre ça, je pense que l'Afrique n'est pas prête à avoir sa liberté. L'Afrique n'est pas prête à renouer avec les coups d'État. Parce que quand on vient sur une radio comme Africa Radio et nous fait l'apologie de quelqu'un qui a pris les armes contre un pouvoir, un pouvoir légitimement élu, moi je commence à avoir peur de l'Afrique et de notre avenir. Et quand il dit que le général, le président égyptien était tout à l'heure, était dans pas longtemps, je crois il y a une semaine en Côte d'Ivoire, est-ce que lui, il était là pour dire ou pour nous relater exactement ce qui se sont dit entre Alassane Ouattara et ce monsieur-là? Moi, je pense que c'est des propos diffamatoires. Faut pas qu'on invente. Moi, je pense qu'on doit lutter surtout pour que la Libye retrouve sa place d'attente. Après Kadhafi, nous avons tous vu. Quand il nous dit aussi que Sarkozy a lancé une guerre, non, c'est pas Sarkozy, c'est sous l'OTAN. Il faudrait qu'on dise les choses.
Vous faites dire des propos à mon invité qu'il l'a pas dit, hein. J'ai à préciser, hein.
Si, j'ai entendu ça. Il a dit que oui, après le combat que Kadhafi a lancé et que Sarkozy a lancé. Non, c'est sous l'égide de l'OTAN. Excusez-moi, Stéphanie, vous savez.
Bien l'Afrique, sûr. Bah, heureusement que vous êtes là pour rectifier, mon cher Diomo de Beng.
Voilà, moi je pense que cet ancien eurodéputé, franchement, c'est nous mettre en guerre, nous les Africains, et lui il est en Europe. Ben, je suis vraiment désolé, ce n'est pas bien.
Bon, merci Diomo de Beng. C'était pas ce qui était annoncé sur mon standard. C'est vrai que les gens sont choqués, hein. C'est pas le seul d'ailleurs, je reçois des messages, tout ça, qui finalement, voilà, on encourage quelqu'un qui veut faire la guerre. Parce que c'est pas le cheval sur lequel on avait misé.
Mais Haftar ne fait pas un coup d'État. Monsieur Sarraj n'a jamais été élu par les Libyens. Le gouvernement d'union nationale qui a été mis en place par l'ONU n'a jamais été élu par les Libyens. Il a été contesté dès le départ par l'Assemblée nationale de Tobrouk.
Enfin, Yazid Sarraj est quand même soutenu par une partie de l'opinion libyenne.
Non, il est par qui? Dites-moi par qui il est soutenu.
Oh, j'en avais un.
Par les milices, parce qu'elles font de l'argent avec lui. Mais excusez-moi, l'Assemblée nationale de Tobrouk, c'est elle qui a contesté M. Sarraj et qui est partie s'installer à Tobrouk parce qu'elle n'était pas d'accord. C'est elle qui a désigné le général Haftar comme patron de l'armée nationale libyenne. La légitimité, c'est l'Assemblée. Et l'Assemblée a donné sa légitimité au maréchal Haftar. M. Sarraj n'a aucune légitimité en Libye, sauf celle de l'ONU, d'être le premier ministre de l'ONU. Et on voit le résultat aujourd'hui.
C'est très clair. Merci, M. Scarpjean. On va accélérer un peu, il nous reste quelques minutes seulement. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de votre patience, Olivier. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Olivier? Vous vouliez parler des accords, finalement, qu'on ne respecte jamais, c'est ça?
Oui, ouais, non, mais je pense que tous ceux qui sont arrivés dans... En fait, le problème des Occidentaux, c'est clair, hein, les Occidentaux ont choisi les camps, parce que Tripoli n'était plus leur affaire. Ça se voit, hein, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour voir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces gens-là, tous ces pays arabophones, sont des gens qui ne vont jamais respecter les accords comme il se doit, comme les Africains le font, ils se couchent dès que le maître parle. Je suis désolé un peu pour Diomé Dobeng, mais bon, le redébuté, il dit que la vérité, c'est comme ça. Voilà, quand il n'y a aucune légitimité, c'est comme ça, ça finit par arriver. Mm. Donc les gens, ils remplacent ce qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas des pays, c'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui sont venus là, qui ont accepté de pourfendre leur propre président et tout. Donc voilà, ça arrive. Là, il n'y a plus d'autorité, il n'y a rien du tout.
Vous dites finalement, c'est ça, c'est ceux qui ont fait la guerre à Kadhafi sont des traîtres, si j'ai bien compris, Olivier.
Ah oui, mais bien
sûr. Voilà, j'ai bien compris votre point de vue. C'est bien.
Voilà, c'est un peu comme... Voilà, ils ont choisi de... Je suis désolé pour mes frères qui m'écoutent et tout. C'est un peu comme le problème de l'Algérie. Les Haris ont choisi la France et puis voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça. Ils ont choisi de suivre des gens. Aujourd'hui, c'est grave de voir des Libyens faire des rangs et aller prendre des rations à la mosquée. Hein, un pays comme le qu'on appelle comme
c'est plutôt rare d'ailleurs. C'est pas les Libyens que vous voyez qui migrent. Les Libyens, voilà. Ils sont dans un pays en guerre, mais ils restent chez eux beaucoup. Hein. Vous confirmez, hein, Michel Scarbonchi, hein, il y a une certaine dignité libyenne en tout cas.
Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est honteux, c'est que pendant 3-4 ans, on a laissé les milices organiser des camps pour mettre des migrants. 600 000 migrants, vous vous rendez compte ce que c'est, 600 000 migrants actuellement en Libye, qui étaient là, qui étaient emmenés des pays sahéliens pour traverser la Méditerranée et venir en Europe. Tous ces trafics se sont faits sous l'égide de M. Sarraj, Premier ministre de l'ONU. Et personne n'est choqué, mais alors, c'est un scandale, c'est un véritable scandale.
On va écouter Ibrahim dans quelques instants. Une question rapide, il y a Yaya Fongbe depuis Abidjan qui nous dit il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans cette offensive. Je m'explique, l'offensive a été lancée en la présence du secrétaire général de l'ONU. Comment expliquer ça?
Oui.
C'était quoi, devant Antonio Guterres? Antonio Guterres était en Libye quand le maréchal Haftar...
Tout à fait, oui, c'est juste.
Est-ce
c'est
que il y a un certain soutien tacite de l'ONU au maréchal Haftar?
Non, je crois pas. Non, je pense que M. Guterres était lui-même très étonné. Je pense que le maréchal a saisi deux opportunités. Mmh. La première opportunité, ce sont les colonnes de rebelles tchadiens qui étaient censées aller prendre N'Djamena, la capitale, et renverser M. Driss Déby, et qui ont été bombardées par l'aviation française et détruites. Ces colonnes étaient des rebelles qui combattaient Haftar. Donc ça lui a libéré la frontière sud, qui contrôlait déjà, mais ça lui a facilité les choses. Deuxièmement, la crise algérienne. L'armée algérienne, préoccupée essentiellement de sauver sa peau face à la rue algérienne, automatiquement ne pouvait plus se mêler de la Libye comme elle avait toujours fait. Mmh. Et donc il a profité de ces deux fenêtres pour brusquement, alors qu'il contrôlait le centre et qu'il était à la Gadariane, de lancer l'offensive sur les faubourgs de Tripoli. Voilà ce qui s'est passé. Et cela s'est fait en présence de M. Guterres qui était là, qui était venu faire une tournée. Voilà. Monsieur Guterres, qui n'est pas responsable de la situation, pas plus que Monsieur Salamé, c'est l'ancien secrétaire général de l'ONU et les deux missionnaires qu'il avait envoyés, un Allemand et un Espagnol, qui ont lamentablement échoué et qui sont responsables du chaos libyen.
On va donner la parole à Ibrahim rapidement. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs.
On vous écoute Ibrahim.
Voilà. Bonjour, monsieur. Moi, je vais pas. Bonjour les invités. Oui, je vais pas jusqu'à donner le blanc-seing au maréchal Haftar, comme le dit votre invité, l'ex eurodéputé. Mais je vais dire que quand même, la Libye est devenue un no man's land à quelque part. Il y a des parties, les parties qui sont contrôlées par les milices. Vous savez très bien comment est-ce qu'on fait les traitements inhumains. Là-bas,
on l'a rappelé, Ibrahim. Ouais.
Voilà. Et c'est vraiment la honte pour tout le monde. Et quand j'entends certaines personnes promouvoir les droits de l'homme, et promouvoir tout ce qui est les résolutions de l'ONU, ben alors qu'il faut mettre en avant quand même la vie humaine. La vie humaine, c'est la stabilité. Moi, je pense qu'il faut aider effectivement ces généraux-là à vaincre militairement et à acquérir l'autorité
sur l'ensemble du pays.
L'ensemble du territoire. Voilà. Ensuite, on va parler politique.
Merci beaucoup, Ibrahim.
Il a bien résumé la situation.
C'est à peu près ce que vous disiez depuis le début de l'émission. Alors, je dois me faire l'écho de plusieurs auditeurs qui vous rappellent, monsieur Scarbonchi, qu'on peut organiser des élections là où il y a des milices. Ils citent la Centrafrique, ils citent le Mali. Ce sera un autre débat. Merci beaucoup, Michel Scarbonchi.
On a vu le résultat au Mali.
Jusqu'à nous. Hein. Je rappelle que vous êtes consultant international, ancien député européen. Bonne journée à tous.
Merci à vous.